On a la chance d'avoir dans nos librairies maintenant la biographie de Béatrice Picard et vous êtes nombreux à m'avoir téléphoné, vous êtes nombreux à marquer vos marques de sympathie, votre amour pour Béatrice Picard sur la page Facebook de CJSO. Et je l'ai au bout du fil, Béatrice Picard, bonjour.
Bonjour, ben, ça me fait du bien d'entendre ces paroles-là, de voir que les gens m'aiment encore.
Ah ben, je pense que vous faites exploser notre page Facebook ce matin avec toutes les marques de sympathie du public envers vous. Béatrice, pour tout le Québec, là, vous faites partie de notre famille. Les gens vous aiment beaucoup, on le dit, là. Et les gens de la région de Sorel-Tracy aussi, ils ont un attachement un petit peu plus fort auprès de ceux et celles là, qui ont fait des œuvres dans la région de Sorel-Tracy ou attachés à la région de Sorel-Tracy, parce que vous avez fait vivre, entre autres, l'histoire du survenant. Merci hein, vraiment de nous accorder quelques minutes aujourd'hui. On est très, très heureux. Alors, j'ai lu votre biographie cette semaine. Plusieurs m'en ont parlé aussi. On se rend compte, là, dans ce livre-là, vous allez être d'accord avec moi, là, que il y a une époque, là, où le Québec était vraiment guidé par la religion, le conformisme aussi. Mais vous, très petite, vous étiez déjà très ouverte d'esprit. Vous recherchiez une certaine liberté. Pourquoi?
La grande question. Parce que je trouve que toujours se faire diriger sans nécessairement... Tu sais, quand on disait il faut avoir la foi. Puis c'est quoi la foi? Il faut croire sans même réfléchir parce qu'on vous l'a dit. Et moi, disons que c'est pas tout à fait ma nature. J'aime ça, la discussion. J'aime comprendre ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je le fais. Et à cette époque-là, ben là, évidemment, il fallait croire. C'était croire ou meurtre. Hein. Alors donc, moi, je voulais pas croire, puis je voulais pas mourir. Alors donc, j'ai décidé de faire ma vie, mais sans faire de vagues, nécessairement. Je n'ai pas... crier par-dessus les toits que je croyais pas ou que je faisais... Je laissais dire les choses, je laissais faire les choses et je faisais ma petite vie. Moi, je m'occupais... D'abord, ce qui était très important pour moi, c'était le métier que j'exerçais et dans ce métier-là, donc ça demande beaucoup de travail, beaucoup de rigueur et donc je n'avais pas à étaler mes croyances, nécessairement. Et... Parce que je trouve qu'une comédienne, on est comme une sorte de courroie de transmission. Tu sais, quand on joue, on transmet la pensée d'un auteur pour qu'elle soit comprise de la part du public. Et je pense que c'est ça l'action principale de ma vie qui a été, de ma vie professionnelle, j'entends, de transmettre ça au public. La joie de vivre aussi, parce que moi, je suis une fille qui aime la vie. Et la preuve, c'est que j'ai fait ma vie sans m'occuper du quand dira-t-on. Je laissais dire les gens, je ne m'objectais pas, je laissais faire. Et j'ai même vu à un moment donné, quand on s'est quitté après 22 ans, les journaux disaient, après son divorce, ben, je laissais dire, je n'avais pas divorcé, je m'étais pas mariée. Donc, c'est tout.
Mais vous parlez justement de ce conjoint avec qui vous n'étiez pas mariée, mais vous travaillez, vous avez toujours travaillé énormément, c'est votre passion, là on le comprend, mais vous êtes mère de 4 enfants aussi, et pendant une période, vous aviez 2 enfants de plus à la maison, en fait vous formiez tous une famille reconstituée. Comment vous avez réussi à concilier travail, famille à l'époque où c'était pas dans les mœurs des gens? Là.
Oh, effectivement, il fallait... ça là, le travail pour une femme à l'époque, c'était en plus de tout le reste. Hein. Il fallait, on était mère de famille, il fallait quand même être capable d'élever ses enfants, de pouvoir faire à manger, être bonne hôtesse, etc. Là, c'était tout ce qu'on exigeait des femmes. Et le travail, c'était en plus. Alors donc, quand on avait envie de travailler, il fallait vraiment avoir une grande envie de faire une carrière, s'entend, parce que très souvent, à l'époque, les femmes apprenaient... bon, celles qui allaient le plus loin, là, ils faisaient l'école normale puis devenaient institutrices, genre quelque chose comme ça, là. Et, ou alors garde malade. Mais tout ça, c'était... un rapport direct avec la famille. En fait, tu sais, quand on est garde malade, faut soigner, c'est les enfants, les mères, etc. Enseignante, c'était s'occuper des enfants. Je veux dire, toute tout ça, c'était relié à, s'il vous plaît, au rôle de la femme auquel on lui avait attribué ça. Et les autres, celles qui voulaient aller un petit peu plus loin, elles étaient sténodactylos, jusqu'au moment où elles se mariaient. Et puis après ça, une fois mariée, ben là, elle laissait le travail, et puis elle retombait dans, ben, j'ose pas dire l'ornière, parce que je trouve que la vie de famille, c'est vraiment tellement beau et tellement important. Mm-hmm. C'est pour ça que moi, je trouve que il est possible de faire les deux quand, et c'est ce que j'aime beaucoup de l'évolution du Québec, c'est que maintenant, les maris et les pères ont compris qu'ils avaient aussi un rôle à jouer. Parce que moi, je sais que dans mon temps, le père de mes enfants m'aidait, mais il me disait, « Ah, tu sais, ça fait plaisir, là, j'ai passé l'aspirateur.
Ouais. »
Et moi, je disais, « Non, je regrette. C'est pas pour me faire plaisir quand on passe l'aspirateur. C'est parce que c'était sale qu'il fallait qu'on le fasse. »
Mais vous aviez tout de même.
Et aujourd'hui, j'ai remarqué qu'avec mes enfants, ils ont travaillé, ils ont fait leur métier, tout comme moi, j'ai fait mon métier. Mais à la maison, avec les enfants, ils étaient partie prenante de l'éducation des enfants. Et pourtant, j'ai eu des gars.
Mais vous, c'est ça.
Je pense que je leur ai inculqué ça un petit peu très tôt.
Mais vous aviez 6 enfants à la maison à une certaine époque. Comment vous faisiez pour aller au théâtre et tout ça? C'est vraiment avec la collaboration de votre conjoint de l'époque?
Non, ben c'est parce que j'avais des sous. Alors donc, pour travailler, alors donc j'avais les moyens de me payer une personne qui était une gouvernante pour les enfants quand j'étais pas là, puis une femme de ménage pour m'aider, parce qu'évidemment, à un moment donné, j'avais une maison assez grande, alors donc j'avais de la collaboration.
Alors c'est magnifique, au moins on comprend un peu toute cette évolution-là qui a fait depuis le temps, mais vous étiez quand même l'une des premières à vivre, j'imagine, avec une famille reconstituée à l'époque et avec toute l'aide quand même. Vous avez pavé la voie et vous avez, là on va parler de la carrière, et je pourrais pas nommer tous vos rôles parce que ça n'a pas de sens, là, vous les avez...
Il y en a vraiment beaucoup, parce que j'ai fait beaucoup de rôles, d'abord à la radio, parce que j'ai commencé par la radio, ensuite ça a été à la télévision, j'ai fait énormément de continuité, mais disons que le truc principal pour moi d'avoir choisi cette carrière-là, c'était parce que j'avais envie de jouer au théâtre. Mm-hmm. Parce que à la radio, on ne voit pas les gens, on ne connaît pas les réactions. La même chose pour la télévision. Évidemment, à l'époque, c'était en direct. Déjà, on pouvait savoir si les gens nous avaient aimés parce que, bon, on en parlait et on me disait, bon, ben l'émission qui a passé hier, c'était bon ou c'était pas bon. Mais le théâtre, pour moi, c'est de l'action présente. Mm-hmm. Quand on joue, le public est là dans la salle et il y a une espèce de communication avec les gens. Et c'est ça que j'ai envie, parce que moi, j'ai toujours aimé... Je suis cancer, hein? Alors donc, moi, j'aime le monde, j'aime la vie, donc j'aime le théâtre, pour moi, c'est cette espèce de communier avec le public, c'est-à-dire avec 100 ou 300 personnes là, mais en même temps. Et quand la magie exerce, c'est magnifique. C'est un véritable plaisir. C'est ça que moi, je dis toujours, j'ai maintenant le plaisir de jouer parce que le travail que j'ai fait est avant, au moment où on travaille très fort pour répéter, pour comprendre le personnage, pour apprendre ses textes, etc., les costumes et tout. Et quand arrive le moment d'entrer en scène, bon, il y a toujours la petite boule de trac avant d'entrer en scène, mais une fois rendu en scène, c'est maintenant un plaisir fou à jouer les personnages que je joue et à communiquer le travail que j'ai fait.
Et ça paraît, moi je vous ai vu là dans plusieurs pièces de théâtre, entre autres Harold et Maude, mais vous avez côtoyé les plus grands. Il faut en parler. Dans Le Survenant, vous avez côtoyé Jean Coutu, Olivier Guimond, que j'adore aussi, Jean Duceppe. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté à leur façon, ces gens-là?
Chacun à sa façon d'être. Il y en a, par exemple, c'est l'écoute. Souvent, je me disais, voyons, comment ça se fait, j'essayais d'apprendre mes textes, je parle du début de ma carrière, mm-hmm. Et un jour, je me rappelle, on était allé avec Olivier Guimond et Denis Drouin faire une représentation au moment où Crébazil était très écouté, et moi, je disais, écoute, j'ai pas l'habitude, moi, de faire des de l'improvisation, parce que vous autres, vous partez sur un canevas, moi, je veux bien le faire. Et il m'avait dit, écoute, parce que Denis Drouet avait une espèce de petite tache de vin mm-hmm. sur le front. Il dit, écoute, c'est très simple. Il dit, tu regardes ma tache de vin. Tant qu'elle est rouge, tu te tais. Puis quand elle devient verte, tu parles.
Oh, ça, devait...
ça m'a permis de comprendre que je dois écouter mon partenaire attentivement, parce que et je saurai exactement à quel moment répondre à une question qu'il me posera ou à une réflexion qu'il fera. Et c'est ça que ça a été le guide de toute ma vie. En même temps, c'était l'écoute de mon partenaire mm-hmm. qui me donne une réplique. Moi, j'ai travaillé avec Giuseppe, par exemple, qui avait une écoute extraordinaire et qui nous donnait la réplique et avec ses beaux grands yeux bleus qui nous ouais. aidaient là, à avoir une espèce de complicité sur scène. Il y en a d'autres avec qui j'ai travaillé d'ailleurs et que j'ai aimé beaucoup, principalement, c'est ça, j'ai eu des partenaires assez extraordinaires. Il y en a tellement, je pourrais pas tous
mais
les nommer. Mais dans le livre, c'est justement pourquoi j'en parle, pourquoi je dis avec qui j'étais quand je jouais. Et avec ceux que j'ai pas aimés, ben je les nomme pas.
Mais en contrepartie, on parle d'hommes, là, mais vous avez trouvé de belles amies grâce à votre métier aussi, vos flowers. Pourquoi c'est important l'amitié entre femmes?
Parce que je trouve qu'on a tellement tendance de nos jours à dire que les femmes, dès qu'on a une chance de parler contre l'autre, on le fait. Alors que c'est pas vrai. L'amitié vraie, là, ça existe. Mais cette tournée merveilleuse que nous avons faite avec les fleurs de l'acier, d'où vient maintenant les flowers, j'appelle ça ma constellation des flowers, elle va durer toute la vie. Mais on ne se voit pas tout le temps. On passe pas notre temps à s'appeler. Parce que je pense que si on faisait ça, cette amitié-là se diminuerait. Elle est là, sincère. Et dès qu'une a besoin de l'autre, on est là. Et même si ça nous tente de dire, écoute, c'est ton anniversaire, j'ai pas le temps de te voir, mais je t'appelle parce que je pense à toi. Mais ça fait chaud au cœur de l'autre. Moi, quand mes anniversaires arrivent, mes flowers sont toujours là pour m'appeler. Et moi, je fais la même chose. Et on poursuit une espèce de cheminement amorcé il y a 15 ans.
Et d'ailleurs, vous avez justement réconforté votre ami André Lachapelle, là, il n'y a pas si longtemps, là, qui fait partie de vos flowers aussi. Elle a passé des moments un petit peu plus difficiles. Vous étiez là.
Très difficile. Et je suis tellement contente parce qu'à un moment donné, André disait, oh non, je vais laisser, je suis fatiguée, je n'en peux plus, je ne veux plus travailler, je ne veux plus faire ça. Et là, on se disait, ben non, André, c'est la meilleure façon de pouvoir s'en sortir. Et elle a repris le travail. On est toutes très fières de notre belle
oui.
André Lachapelle.
On est tous très heureux aussi.
Une belle femme, puis une femme qui a une énergie, même si elle a l'air tellement fragile, mais c'est une femme qui a passé à travers tellement d'épreuves dans sa vie et tout ça, et qui maintenant a droit d'avoir un petit peu de tranquillité, je pense.
Elle va se faire aider par ses amis.
Qu'elle a repris le travail, je pense que ça va l'aider énormément.
Oui, bien, ses amis sont là pour l'aider. On doit parler rapidement de toute l'aventure du survenant qui est évidemment importante pour vous. Mais comme je le disais, pour les gens de la région de Sorel-Tracy aussi, il y a d'ailleurs Béatrice...
Ah, pour moi, le survenant, c'est la première chose très importante
exact.
Que j'ai eue. Vous savez, des beaux souvenirs d'antan. Parce que là, moi, je fais tellement longtemps que je fais ce métier-là. Ça ne s'oubliera jamais. Et à chaque fois que je vais de ce côté-là, je me rends toujours du côté des îles de Sorel. Je vais faire mon petit tour. Ça a changé énormément, bien sûr, bien sûr. Mais ça ne fait rien. Je suis allée il y a quelques années revoir la maison où habitait
ah, oui.
Germaine Guèvremont l'été. Et je me disais toujours, ah mon Dieu, cette petite île qui c'est tout mignon, c'est tout petit. Je sais pas qu'est-ce que c'est devenu maintenant, là. Je pensais que la ville voulait la racheter, sa maison, pour en faire un musée, mais
pour
je sais pas,
c'est
que
pas
ça, est-ce que ça a été...
Pour l'instant, c'est pas réglé, mais si vous ne le savez pas, puis on vous invite d'ailleurs, parce que mon amie Anne-Marie Dulude, qui travaille au Biophare, l'un des musées ici, présente une exposition sur Germaine Guèvremont et son survenant. Vous faites partie de cette exposition-ci, et vous revenez à Sorel le 2 novembre, donc on veut vous inviter à visiter cette exposition-là.
Est-ce que c'est une exposition permanente?
Elle était permanente, elle s'est promenée et elle est de retour à Sorel-Tracy. Magnifique exposition dont
il faudrait que j'aille voir. Je sais que je vais aller à Sorel bientôt.
Le
là.
2 novembre, à 2, c'est mieux ici avec Luc
Denoncourt. Alors, il va falloir... Qu'est-ce que c'est qu'il faut... Où est-ce qu'elle est, cette exposition-là?
Je vais vous donner tous les détails parce que vous revenez avec mon collègue Luc Denoncourt. Tout de suite après l'entrevue, je vous donne les détails. C'est au Biophore ici à Sorel-Tracy. Comment elle était, Germaine Guévremont? Parce que vous l'avez côtoyée, elle vous donnait vos textes du survenant.
Oui, oui, je l'ai côtoyée. C'était une femme qui avait l'air très, très, très douce et très, très gentille. Mais elle avait quand même son petit côté autoritaire. C'est parce qu'elle était, elle savait ce qu'elle voulait, puis comment elle le voulait. Et quelquefois, elle disait, non, ce n'est pas ce que je veux. Alors donc, moi, je disais, c'est correct, c'est parfait, ça. C'est une femme qui, d'abord, avait une écriture tellement extraordinaire, c'est tellement belle. Et on parle tout le temps du survenant, mais quand même, elle avait... ces petits textes qu'elle écrit en pleine terre, là, il y avait toujours... les personnages étaient toujours là.
Ouais. Hein?
Les personnages... Enfin, nous, on a appelé ça les personnages du survenant, mais on aurait dit que c'était comme l'ébauche avant, ça mûrissait pour en arriver à son chef-d'œuvre qui est le survenant.
Exact.
Parce que, tu sais, il y avait toujours le Père Didas qui était là, il y avait Marie-Amanda, mais c'était pas, ça s'appelait pas le Père Didas, ça s'appelait l'automne, ça s'appelait n'importe quoi, là, tu sais, je veux dire, mais c'était...
Exact.
Et je pense que elle aimait la terre, elle aimait les gens de ce milieu-là, et elle les a peaufinés jusqu'à ce, ouais, en arriver à faire cette fresque formidable qui est devenue évidemment une fresque aussi télévisée.
Et là, on pourrait parler pendant des heures, et j'ai pas des heures, mais je pourrais jaser des heures avec vous. J'ai lu votre livre, on a joué...
C'est justement, j'aimerais ça que les gens aussi puissent... Ah, je parle du survenant, mais je parle aussi d'une époque. Je,
oui,
parle comment les gens vivaient à l'époque. Comment on vit maintenant? Qu'est-ce qui arrive? Je pense que c'est... tu sais, il y a beaucoup de gens, moi, presque tous ceux que j'ai connus quand j'ai commencé, ils sont décédés maintenant. Alors donc, j'en parle maintenant parce que il faut que cette mémoire-là doit exister, parce que on n'invente rien de nouveau. On vit, on évolue et on arrive à un but dans la vie. Et donc, moi, le but que j'essaie de dire aux gens, aimez la vie, n'oubliez pas, ayez toujours des projets, c'est la meilleure façon de vivre en beauté.
Bien, c'est vrai, c'est vrai. Puis on le remarque, entre autres, avec vous. Mais vous parlez d'évolution du Québec. Évidemment, c'est sûr, là, on le lit dans votre livre. Mais comment le monde du théâtre a changé au fil du temps en terminant?
Le monde est nouvelle. Je trouve que là, maintenant, le théâtre a tellement évolué. On n'a rien à envier aux autres pays. Ou alors, tu sais, avant, quand on dit, oh mon Dieu, ce qui se passe en France, aux États-Unis, en Angleterre, etc. Nous, on a l'expertise maintenant, formidable, et qui fait que les spectacles sont bons. Maintenant, on ne peut pas nécessairement mettre tous les sous que d'autres peuvent mettre parce que le gouvernement ne peut pas nous aider suffisamment parce que bon, on n'a pas suffisamment d'argent pour arriver à subventionner normalement le théâtre. Et ça me fait toujours rire, moi, quand les gens disent « Ah, ça aller au théâtre, on ne peut pas y aller parce que, tu sais, il faut dépenser 40-50 $ pour aller au théâtre. » Mais oui, mais ils vont payer 75 puis 100 $ puis 125 $ pour aller au hockey. Alors, donc, là, moi, là, s'ils ont l'argent pour aller au hockey, voir du hockey, ils pourraient en avoir 50 $ ou 40 $ pour aller voir du théâtre.
Mais avec l'arrivée des réseaux sociaux, est-ce qu'on a peur que la jeune génération n'aille plus au théâtre?
Au contraire.
Ouais.
Elle y revient au théâtre. Et c'est ça que je trouve merveilleux. C'est une façon différente de jouer au théâtre. C'est une différente de... Et donc, la jeunesse attire la jeunesse. Et il y en a beaucoup de jeunes qui sont maintenant bien formés par les écoles, par le conservatoire, par tout ça. Et quand ils arrivent au théâtre, ils ont des idées neuves. Et c'est bon. Comme je dis souvent, ça me pousse dans le dos. Et c'est pour ça que j'ai aimé. Moi, j'ai travaillé avec des jeunes pendant plusieurs années, là, pour avec Sambras. On est allé partout. On l'a fait à travers le Québec, mais on est allé en Europe aussi. Et c'était merveilleux. Et j'aime beaucoup. beaucoup, j'aime beaucoup travailler avec des jeunes et qui ont des idées nouvelles, qui font des tentatives. Ils ne sont pas toujours heureux, ces tentatives-là, mais il y a des tentatives, puis quand ça réussit, c'est formidable. Alors, moi, j'incite les gens à aller au théâtre, les gens autant par des troupes qui sont très, très connues, comme moi, souvent, j'ai tellement fait de tournées à travers le Québec, mais il y a des jeunes troupes qui, des fois, présentent des choses, des fois, c'est pas fait avec énormément de sous, mais c'est fait avec énormément d'idées, par exemple.
Bien, on a plein de troupes de théâtre ici dans la région aussi, et même moi, j'ai pu jouer dans les mêmes pièces que vous.
C'est un courage à continuer.
J'ai joué dans Le Simple Soldat, c'était avant la guerre à Lanceagile, Fleur d'Acier aussi. Bref, on a un parcours qui peut se ressembler quelque part. Béatrice, dans votre livre, moi, je vous ai abordé déjà chez Duceppe en vous disant la phrase que j'avais vue à la télévision et qu'il se rapporte dans votre livre qui dit « Venez me voir pendant que je vis, ne m'encensez pas quand je serai morte ». Je vous avais dit ça. Et vous m'aviez dit, ben, je suis bien contente de vous rencontrer. Alors, on peut dire ça aux gens, là, de, un, lire votre livre, mais d'aller vous voir, de ne pas hésiter à vous aborder quand on vous rencontre, là.
Exactement. Mon Dieu, vous êtes gentil, Myriam.
Ben, c'est parce que je vous aime, c'est tout. Puis on vous aime tous. Alors,
moi, j'aime le monde, alors. Donc, moi aussi, je vous aime.
Ben, vous êtes pareil comme à la radio quand je vous rencontre.
Comme je dis toujours, chaque jour, il faut trouver un petit bonheur.
Oui, exactement.
Et moi, mon petit bonheur, c'est d'avoir conversé un petit peu avec vous ce matin.
Ben, vous faites un grand bonheur pour moi, en tout cas.
De Sorel. Comme je les aime.
Béatrice Picard, ça a été un grand honneur, grand honneur de vous recevoir à la radio, puis on va se resaluer chez Duceppe probablement très bientôt. Moi, je vous ai vu aussi dans Harold des Mondes, et c'est pas fini pour vous, là. Ça continue.
Non, c'est pas fini. Ça continue.
Plein de projets. On va se concentrer sur votre biographie. Je reçois votre auteur de biographie un peu plus tard dans l'émission.
Vous savez que ma biographie, là, ça peut faire un très joli cadeau de Noël qui coûte pas trop cher.
Exactement.
Ah, donc, suggestion pour ça.
Alors, moi, j'ai passé la semaine avec vous et je clôt ma semaine grâce à cette entrevue avec vous. Ça a été formidable. Et le 2 novembre prochain, vous serez ici à CJSO à l'émission À deux, c'est mieux avec Luc Denoncourt.
Exactement, ça va être animé en direct.
Et je vais vous donner tous les détails sur l'exposition du survenant et de Germaine Guévremont ici à Sorel-Tracy également. On invite les gens à aller voir ça également et aller vous voir à À deux, c'est mieux avec Luc Denoncourt à la Bouffe-Tifaille. Ça va être un super rendez-vous. J'irai vous voir aussi.
Merci beaucoup.
Merci Béatrice Picard.